Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. L'histoire du 20e siècle fascine bien des gens. Et un des événements les plus étudiés, discutés et analysés est la montée d'Adolf Hitler. Bien sûr, il a laissé sa marque comme un des humains les plus cruels que la Terre ait porté. Il est responsable de plusieurs millions de morts et, malheureusement, influence encore aujourd'hui une frange de la société. Nostradamus l'a qualifié d'antichrist. Quelques théories du complot entourent sa vie et sa mort. Et chaque fois que son nom est prononcé, c'est une controverse quasi assurée. Avant de poursuivre, je vous résume la montée d'Adolf Hitler, car elle est importante dans notre histoire aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne signe un traité de paix dans lequel il est entre autres stipulé que l'Allemagne doit prendre l'entière responsabilité de la guerre et dissoudre son armée. Le traité est vu comme une humiliation par certains vétérans et nationalistes qui croient à tort que la guerre aurait pu être remportée si l'armée n'avait pas été trahie par des politiciens et des manifestants. Cette situation devient l'obsession d'Hitler et sa paranoïa et son racisme le mènent à faire porter le blâme aux Juifs. Son charisme et sa facilité d'élocution le mènent à la tête d'un petit parti politique nationaliste, le parti nazi, qui dénonçait le capitalisme et le communisme, car selon eux, c'était des conspirations juives pour détruire l'Allemagne. Suite à la dépression de 1929, la popularité du parti passe de 3 % à 18 %, entre autres parce que Hitler promettait de rendre sa grandeur à l'Allemagne.
We will make America great again.
Il se positionnait comme l'alternative aux principaux partis. Après avoir perdu l'élection de 1932 avec 36 % des voix, il est désigné chancelier vu sa grande popularité. Il mentionne d'ailleurs que lui seul peut remettre la loi et l'ordre en Allemagne.
I alone can fix it. I will restore law and order to our country.
Ça fait froid dans le dos, hein, plus de 70 ans plus tard. Mais revenons à nos moutons. Donc, en 1933, un protestataire met le feu au Parlement. À ce moment, Hitler demande et obtient des pouvoirs d'urgence supplémentaires. Un mois après, il abolit la liberté de presse et passe des lois anti-juifs. À la mort du président, il prend sa place sans élection et on connaît la suite malheureuse des événements. Cette histoire est importante pour plein de raisons, évidemment. Elle a entre autres passionné un jeune Californien du nom de George Lucas qui s'en est inspiré pour créer une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, Star Wars. En sortant de l'université, Lucas fonde avec Francis Ford Coppola la compagnie de production American Zoetrope, qui existe encore aujourd'hui. Elle produit le film THX 1138, le premier film professionnel de Lucas, un film très, certains diront, trop expérimental pour l'époque. Lucas le décrit comme un film de science-fiction sociale. C'est un succès critique, mais un échec commercial. Malgré tout, Lucas réalise un autre film, American Graffiti, qui obtient un succès critique et commercial, allant même jusqu'à recevoir 5 nominations aux Oscars, incluant celui de meilleur film. Lucas utilise le succès remporté par American Graffiti pour négocier les modalités de son prochain projet, celui qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, Star Wars. Pour Lucas, Star Wars est un amalgame de tout ce qui le fascine le plus. Les voitures, les gadgets, l'histoire et les combats d'épée. Il y a aussi la série Flash Gordon qui inspire Lucas. À cette époque, il faut savoir que toute la science-fiction était ténébreuse, sombre, pessimiste, apocalyptique et sans trop d'espoir. Lucas voulait faire tout le contraire avec Star Wars. L'idée du film et de la saga avait commencé à germer dans l'esprit de Lucas avant même le lancement d'American Graffiti. Il voulait faire un space opera dans la veine de Flash Gordon, justement, et qui plairait tant aux adultes qu'aux enfants. Il voulait bâtir une saga empreinte de mythologie et de religion et rendre le tout universel. Il écrit donc l'aventure d'un jeune homme, Luke, qui est guidé par un sage, Obi-Wan, qui, ensemble, veulent aider une princesse, Léa. Et pour ce faire, s'adjoignent les services d'un pirate, Han. C'est comme ça qu'en 1973, le synopsis de The Star Wars est né. Après avoir été refusé par Universal et United Artists, Lucas se tourne vers la 20th Century Fox, qui ne croit pas au synopsis, mais en son réalisateur. Comme je le disais, au début, les patrons de la Fox ne sont pas très enchantés par le scénario. Pour les convaincre, Lucas retourne donc à la planche à dessin et repense son synopsis pour le réduire à sa plus simple expression. Une guerre entre les rebelles et l'Empire galactique. Point final. Bien que le personnage de Darth Vader soit présent dès le début, imaginer les rebelles s'avère un peu plus complexe. Finalement, Leia Organa, Han Solo et Luke Starkiller, qui changera de nom pour devenir Skywalker, voient le jour. Dès le début, la base de l'histoire était claire. Luke s'entraîne pour devenir un Jedi et maîtriser la Force. Le concept de la Force se veut une énergie spirituelle et presque religieuse, mais qui devait rester simple à comprendre. Une fois tous les éléments en place, George Lucas se rend compte que ce qu'il a en tête est beaucoup trop complexe pour un film et le budget qui lui est fourni. Il choisit donc de découper son histoire en trois actes, de se consacrer au premier et de mettre les deux autres de côté pour y revenir peut-être un jour. Pour convaincre les patrons de la Fox, il fait faire des croquis de quelques scènes qui convainquent le studio d'approuver un budget de 8 millions de dollars. Plusieurs choses avaient changé depuis le début de l'écriture de Star Wars. Lucas avait eu un succès mémorable avec American Graffiti et Star Wars, qui devait en fait être un film, était devenu potentiellement une trilogie. Lucas renégocie donc son contrat pour y inclure les droits pour les autres films de la franchise, ainsi que pour les produits dérivés. Dans la tête de Lucas, à ce moment, les seuls produits dérivés étaient des posters et des t-shirts. Les temps ont bien changé. C'est d'ailleurs grâce à Star Wars et la vision de Lucas que maintenant chaque blockbuster a sa collection de produits dérivés. Il n'y avait pas de compagnie d'effets spéciaux à cette époque, et vu la teneur du film, Lucas fonde ILM, Industrial Lights and Magic, pour créer les effets spéciaux de Star Wars. Au moment du casting, Lucas voulait une distribution d'acteurs inconnus ou peu connus. Kurt Russell avait même été pressenti et presque choisi pour jouer Han Solo. Mais la chimie avec le nouveau venu Mark Hamill n'était pas top. Lucas fait alors une exception à sa règle et engage Harrison Ford, maintenant une vedette suite à American Graffiti, et il devient Han Solo. Au moment de créer les costumes, Lucas, le fan d'histoire, demande que celui de Darth Vader soit influencé par les nazis. Les premiers croquis, surtout celui du casque, font référence au casque noir et brillant porté par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le nom de l'armée de l'Empire, les Stormtroopers, est tiré intégralement d'une unité tactique de l'armée allemande de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait les Sturmtruppen. L'uniforme des officiers de l'Empire aussi a une forte influence nazie. En plus de son intérêt pour l'histoire, Lucas choisit l'inspiration nazie car elle représentait le mal et la guerre. Mais l'influence la plus évidente des nazis dans Star Wars est incarnée par la montée de l'empereur Palpatine. Il commence comme un simple sénateur charismatique de Naboo. Et par des manipulations politiques et machiavéliques, il devient chancelier suprême. Crée la guerre des clones afin d'obtenir des pouvoirs d'urgence qui lui permettent de rester en place et de réorganiser la République pour en faire l'Empire et s'auto-proclamer empereur. Maintenant que le casting était fait et que les costumes étaient dessinés, c'était le temps du tournage. Le film s'appelait désormais Star Wars. Le « de » avait disparu, mais le « New Hope » n'était pas encore apparu. La première partie du tournage se fait en Tunisie et fut très pénible vu la chaleur et le manque d'expérience générale de l'équipe de tournage et des acteurs pour ce type de film. Après 2 semaines en Tunisie, le tournage se déplace dans des studios en banlieue de Londres pour tourner les scènes restantes. Un fait fascinant, c'est qu'à ce moment, tant les acteurs que les techniciens avaient peu d'intérêt pour le projet. Voyaient même le film comme un film pour enfants et ne prenaient pas leur rôle très au sérieux. Alors que le tournage avait 2 semaines de retard et avait dépassé son budget de 8 millions, Lucas se fait donner un ultimatum d'une semaine pour terminer toutes les scènes. Il divise donc l'équipe en 3 unités qui tournent simultanément, supervisées par Lucas, afin de rencontrer la date butoir. Une fois le tournage terminé, la première version du film était exécrable. Elle manquait de rythme. Lucas engage donc 3 monteurs pour recréer une version acceptable et la date de sortie du film passe de décembre 1976 à mai 1977. Toute cette pression réussit à causer au jeune George Lucas, alors âgé de 32 ans, des problèmes d'hypertension, imaginez-vous. Alors que la post-production commence à trouver son rythme, Lucas réalise que la voix de David Prowse, qui incarne Darth Vader et qui avait été choisi pour sa stature, ne fonctionne pas avec le personnage. Sa voix était trop aiguë et avait un fort accent anglais. Il engage donc James Earl Jones pour doubler Darth Vader et lui donner sa voix maintenant iconique. Le montage étant terminé, la machine publicitaire se met alors en marche avec une première bande-annonce à Noël 1976. Un roman et un comic book sont aussi lancés et quelques mois plus tard, plus d'1 million de copies sont vendues. Alors que le studio, les acteurs et un peu George Lucas lui-même s'attendent au pire, Star Wars est lancé le 25 mai 1977. La première a lieu au Chinese Theater de Hollywood. Le maintenant classique crawl du début ainsi que la scène dans l'espace qui la suit captive l'auditoire qui crie au génie et à la révolution. Même les acteurs qui avaient peu d'espoir durant le tournage sont complètement soufflés. Sur un budget de finale de 11 millions de dollars, Star Wars cumule des recettes de 90 millions à la fin de 1977. Alors que le film est lancé partout sur la planète dans les mois qui suivent sa sortie américaine, les producteurs ont une frousse en 1978 quand les Japonais gardent un silence de mort à la fin de la première. Ils apprendront rapidement que c'est le plus grand compliment qui peut être donné au Japon lors de la projection d'un film. Suite à l'immense succès du film, Lucas veut capitaliser sur son option de produits dérivés. Mais il n'a que des t-shirts et des posters. Peu de temps avant la sortie du film, une petite compagnie de jouets, Kenner Toys, accepte de produire des figurines des personnages du film. Ne pouvant subvenir à la demande, Kenner, qui ne veut pas manquer le très lucratif temps des fêtes, se met à produire des boîtes vides avec un coupon échangeable contre les figurines quand elles seront disponibles. Lors de la cérémonie des Oscars de 1978, Star Wars obtient 10 nominations, dont celle de meilleur film, et remporte 7 statuettes dans les catégories techniques, incluant celle du montage, ironiquement. Alors que George Lucas, qui ne voulait que son indépendance artistique et financière, obtient un succès planétaire, les studios Fox l'approchent pour discuter de la suite des choses. Et c'est ce que nous ferons aussi dans le prochain épisode de Raconte-moi. Un seul homme à la poursuite de ses rêves et à la ténacité de fer a changé bien des choses dans le monde du cinéma. Lancer un blockbuster l'été, c'était du jamais vu à cette époque. Des effets spéciaux, ça n'existait tellement pas qu'il a dû créer sa propre compagnie. Et que dire de la commercialisation des produits dérivés? On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des autres films de cette grande saga. Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos commentaires sur iTunes, Google Play et Spotify afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Suivez aussi le compte Instagram Raconte-moi Balado pour connaître en primeur le sujet de la semaine. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.